BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Merci d'avoir choisi BFM Business plutôt que France Polloc. Vous avez bien raison, il ne se passe rien. Hein, donc vous êtes aussi bien avec nous ici pour décrypter l'actualité économique. Beaucoup de choses ce soir. Dans l'actualité des entreprises, tiens, ça nous change un petit peu de la politique. Bernard Arnault qui met un tout petit pied chez Richemont. On va vous raconter ça. Journée cauchemardesque en bourse pour Airbus. On va voir ça aussi dans un instant. Et puis on parlera de politique avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr.
Et oui, on va dire un mot d'Ursula von der Leyen pour qui ça se précise. Elle devrait rempiler pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Et puis, bien sûr, on va continuer à fouiller les programmes électoraux des différents partis. Alors, le RN, de son côté, sort petit à petit de l'ambiguïté concernant le dossier des retraites, mais ça reste encore un peu flou. Et puis, on dira un mot de cette étude qui nous dit que c'est en France que la concurrence sur les grandes lignes ferroviaires devrait être la plus forte d'ici quelques années, même si pour le moment, ça ne bouge pas vraiment.
C'est moins qu'on puisse dire. Alors, qui va revenir avec nous pour parler de tout ça? Le communicant Jackie Isabello va revenir. On sera avec Jean-Marc Sylvestre d'Atlantico. Et puis, on sera ce soir avec Dominique Corona, le secrétaire général adjoint du syndicat UNSA.
Voilà qui nous promet un débat musclé.
C'est le moins qu'on puisse dire aussi.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc ça fait très longtemps qu'on entend dire que LVMH, leader mondial du luxe, s'intéresse de très près au géant suisse Richemont. Et bien c'est une information que nous sommes en mesure de vous confirmer ce soir. Bernard Arnault a pris à titre personnel, je cite, une petite participation à son capital. Bonsoir Pauline Tadevin, est-ce que c'est le début d'une action plus large? Ça évidemment c'est une question sans réponse Pauline.
On est en mesure de vous le confirmer ce soir sur BFM Business. D'après nos informations, qui confirment celles donc de Bloomberg, il s'agit d'une petite participation, hein, une petite ligne dans le portefeuille d'un fonds familial parmi des centaines d'autres, martèle une source qui précise qu'il n'y a rien d'autre à y voir et que cette prise de participation n'est pas du tout annonciatrice d'un éventuel rachat de Richemont par LVMH, d'autant qu'une telle opération se heurterait forcément aux autorités de la concurrence, nous dit Luca Solca, analyste chez Bernstein. Mais une petite phrase de Bernard Arnault fin janvier résonne aujourd'hui tout à fait différemment. Il déclarait alors qu'il n'avait aucune envie de déranger la stratégie de Johann Rupert, le patron de Richemont, qu'il considérait comme un dirigeant exceptionnel, mais que si Johann Rupert avait besoin de soutien pour maintenir son indépendance, il serait là. Après une approche de Kering, le patron de Richemont a soutenu que son groupe n'était pas à vendre. Il a dit aussi l'an passé qu'il était en contact permanent avec Bernard Arnault dans le respect mutuel de leur indépendance. La prise de participation de ce dernier, aussi minoritaire soit-elle, est révélée en tout cas alors que Kering est désormais occupé par tout un tas d'autres dossiers, dont le redressement de son navire amiral Gucci.
Absolument. On rappelle, Richemont, ce sont des marques prestigieuses, évidemment.
C'est Cartier, c'est Van Cleef & Arpels.
En tout un catalogue de belles marques. Voilà en tout cas pour ce petit mouvement.
Qui vont bien, en tout cas.
Qui vont bien, effectivement, comme va toujours bien le secteur du luxe. On ne cesse de le répéter, bien sûr, sur BFM Business. Merci Pauline. Pauline Tadevin avec nous ce soir dans Good Evening. Le titre LVMH a progressé ce soir. On verra ça, bien sûr, avec Étienne Braque dans un instant. La journée était épouvantable, en revanche, pour le titre Airbus, qui a dégringolé ce soir d'un peu plus de 9%. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Guillaume.
Pourquoi est-ce que ça a dégringolé? Pourquoi? Parce que le groupe annonçait ce matin, un, qu'il livrerait finalement moins d'avions que prévu cette année, deux, qu'il allait passer 900 millions de charges à cause de plusieurs programmes spatiaux qui ne se portent pas, eux, très très bien. Bah forcément, les marchés ont pas aimé, Jean-Baptiste. Hein.
Beau petit profit warning. Ouais. 770 avions livrés cette année contre 800 espérés. C'est la nouvelle prévision d'Airbus. Mois après mois, bah, on se rend à l'évidence, la chaîne de sous-traitance ne parvient pas à suivre la cadence des commandes. C'est particulièrement vrai, explique Guillaume Faury, patron d'Airbus, pour les aérostructures, les équipements de cabine et surtout les moteurs. La situation est telle qu'une fois encore, Airbus se retrouve avec ce qu'on appelle des planeurs, des avions sur le tarmac qui attendent leurs moteurs. Il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler à Toulouse. Alors les motoristes, justement, l'américain Pratt & Whitney, mis en cause par Guillaume Faury, mais également CFM International, qui est la co-entreprise de Safran et General Electric. Le patron de Safran, Olivier Andriès, l'a dit il y a quelques jours, la demande n'a jamais été aussi forte et l'offre jamais aussi fragile. Covid, guerre en Ukraine, troubles géopolitiques, choc énergétique, inflation, vous avez toute la chaîne de sous-traitance qui est malmenée depuis 4 ans et le retour à la normale est beaucoup plus long que prévu. La situation s'est même dégradée ces derniers mois, c'est ce qu'explique Guillaume Faury. Résultat des courses, Airbus modifie ses cadences de production. Le groupe avait prévu 75 avions par mois d'ici 2026, ouais, des monocouloirs, et bien raté prix. Ce sera pour 2027, donc un an de retard. Et puis vous l'avez dit, les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, puisque la division spatiale continue de souffrir. Airbus, ces derniers mois, a fait un petit peu le ménage dans ses différents programmes. Et effectivement, résultat, le groupe passe une charge de 900 millions d'euros. Airbus qui revoit ses objectifs financiers à la baisse pour cette année. Le bénéfice opérationnel attendu sera autour, si tout va bien, de 5,5 milliards contre 7 milliards initialement prévus.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Huet, 19h06, autre action sur laquelle ça s'agit depuis 24 heures, c'est le titre Eurofins, moins 16% hier, plus 4% aujourd'hui. Vous savez que le groupe a été accusé hier de malversation comptable, rien que ça, par le fonds américain Muddy Waters. Eurofins a réagi aujourd'hui, il conteste radicalement ces accusations. Hélène Cornet.
La bataille de communication a commencé. Eurofins dit vouloir fournir en temps voulu des réfutations plus détaillées, mais d'ores et déjà, le groupe liste tout un tas d'inexactitudes dans le rapport de Muddy Waters, à commencer par l'intégrité des comptes de l'entreprise, entièrement contrôlée et certifiée par des audits financiers. Si le revenu par employé est certes plus élevé que chez les concurrents, explique Eurofins, c'est en raison d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Tout est profondément calomnieux, conclut le patron du groupe, Gilles Martin, dans un communiqué, et n'a pour seul but que de tirer profit de la baisse du titre. Le laboratoire n'a pas abordé en revanche la question des transactions immobilières douteuses, un des arguments les plus sérieux de ce rapport, selon les analystes Dodo. Pour eux d'ailleurs, le vrai risque pour l'entreprise, c'est une atteinte à sa réputation. Contacté, Muddy Waters dit maintenir ses accusations contre Eurofins et rappelle que tout le monde commence par nier dans un premier temps, y compris Jean-Charles Naouri chez Casino.
Hélène Cornet, dans l'actualité ce soir, a priori c'est fait. Ursula von der Leyen va rempiler à la tête de la Commission européenne pour 5 ans. Un accord a été trouvé apparemment entre les grandes capitales, Paris et Berlin. Accord aussi entre les principaux partis politiques européens. Tout ça devrait être entériné déjà dans un premier temps lors du sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi prochain du côté de Bruxelles. Et puis un petit mot quand même de la campagne des législatives en France. Avec le message ce matin sur BFM Business du patron de l'UDP, qui défend les intérêts des indépendants, commerçants et artisans. Lui demande une seule chose, en fait, aux candidats, c'est de ne rien lâcher sur la simplification du travail et sur la simplification administrative. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on reprenne cette loi, qu'on la porte... Que le gouvernement qui arrive la porte, et puis dans les années qui viennent, puisque nous avions un rendez-vous annuel pour la réactualiser et aller plus loin dans les mesures de simplification, mais qu'on parte de la base de ce travail auquel nous travaillons depuis plus d'un an et demi, plutôt que de tout casser, tout virer, tout recommencer. Le pays, il est malade de ça. Il est malade de ces alternances où on dégage tout au motif que, comme c'était des gens avec qui on n'était pas d'accord, tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Non. Il faut que ceux qui vont avoir le pouvoir demain prennent un peu le recul nécessaire pour que ce qui est en attente dans la loi simplification qui correspond aux entreprises, ce qui est en attente dans la loi travail qui correspond aux besoins des petites entreprises, eh bien, ça soit repris, aménagé peut-être, rediscuté, renégocié, mais qu'on reparte pas de zéro parce que dans 2 ans, encore plus rien.
Voilà le petit coup de gueule ce matin de Michel Picon, le président de l'UDP et les artisans, les commerçants sur BFM Business. Et puis alors, on voulait dire un mot pour finir de cet événement qui se déroule là aujourd'hui et demain. Ça se passe du côté du CNIT à la Défense. La 3e édition des Assises du New Space. On y voit tout ce qui se fait en matière d'innovation spatiale. La start-up française Sirius, par exemple, construit, elle, des mini-lanceurs réutilisable. Et alors devinez quoi, elle produit ça juste à côté de la Défense, du côté de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Reportage sur le site de production, Zidane Azouzi.
Il n'y a pas si longtemps encore, ce site était occupé par un garage automobile. Aujourd'hui, dans cette usine, Sirius conçoit ces mini-lanceurs qui serviront à transporter des petits satellites, télécoms, surveillance. La start-up perfectionne en ce moment la conception du moteur de la fusée et s'appuie sur une technologie semblable à l'impression 3D. Luc Lacoste, responsable fabrication.
Pour vous donner un ordre de grandeur, des pièces, des chambres de combustion comme celle-ci, c'était à peu près 8 mois de délai et 400 000 euros. Aujourd'hui, on est capable d'en fabriquer une en 2 semaines pour un coût qui est diminué par un ordre de grandeur de 20 à peu près. En un mois, maintenant, on va être capable de fabriquer un moteur complet intégré dans nos locaux.
Résultat, la start-up n'a plus besoin de faire appel à des prestataires. Elle s'est fixé un plan de vol ambitieux avec 12 lancements par an à la fois depuis Kourou en Guyane et l'Europe continentale. Pour être compétitif, Sirius mise sur les économies d'échelle, détaille Antoine Fourcade, le cofondateur.
On développe une gamme de lanceurs, Sirius 1, 13 et 15. On va standardiser au maximum les composants. On développe une même gamme de composants, un même moteur. Ça nous permet à terme d'avoir une cadence de plus de 300 moteurs par an. Mais on travaille aussi sur des lanceurs qui seront 100% réutilisables 10 ans après le vol inaugural.
Sirius envisage de doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. L'objectif, atteindre les 300 salariés d'ici 2027. La start-up espère effectuer son premier lancement vers l'orbite d'ici un peu plus de 2 ans.
Voilà Sirius qui construit des mini-lanceurs réutilisables qui fait ça à quelques kilomètres de Paris, du côté de Colombes. Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. 19h11. Et ben nous repartons sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui perd 0,58%, 7662 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
C'est pas un folichon à Wall Street apparemment là.
Bah non, parce que moins 10% pour Airbus, moins 3% pour Boeing, hein. Forcément. Ah ouais. Airbus
par
n'est pas le seul.
Sympathie comme on dit. Hein.
Voilà, c'est ça. Forcément, c'est des problèmes chez Airbus en termes de cadence. Il y en a sûrement également chez Boeing. Donc ça pèse sur l'indice Dow Jones. À l'inverse, vous avez un indice Nasdaq qui gagne 0,86% avec toujours une énorme dépendance à Nvidia. Hier, le titre a perdu 6%. C'est quasiment 400 milliards hein, qui sont partis en fumée. Pour vous donner un ordre d'idée, 400 milliards. C'est LVMH plus Kering. Voilà, juste pour planter le décor, c'est une boîte qui était encore, rappelez-vous, la semaine dernière, première capitalisation mondiale, qui redescend troisième aujourd'hui à 2900 milliards. Et donc après une baisse de 6% hier, le titre reprend un peu plus de 4% aujourd'hui. Donc forcément, le Nasdaq prend des couleurs avec un indice qui est au-delà des 17 650 points. Quand donc le Dow Jones pénalisé par Boeing perd 0,8% à 39 081 points, le S&P 500 est parfaitement stable. C'est toujours très calme en termes d'actualité d'entreprise. Les investisseurs attendent qu'une chose, ils ont déjà sorti des pop-corns, c'est jeudi soir, le grand débat entre Donald Trump et avec Joe Biden, avec notamment Donald Trump qui aura le dernier mot. Vous savez, ça a été tiré au sort, et donc c'est Donald Trump qui aura le dernier mot de ce débat, hein. Donc ça sera pour nous dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française, et donc ça, c'est très attendu aux États-Unis.
Organisé par la chaîne CNN, et alors j'ai lu aujourd'hui que quand l'un parle, le micro de l'autre est coupé, ce qui est
en effet,
les cafouillages et les...
Ça donne un petit peu l'ambiance.
Ça sera un peu tamisé, on va dire ça comme ça. Bon, on suivra ça, bien sûr, sur BFM Business. Merci beaucoup, Étienne. 19h13, on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. On a beaucoup de choses ce soir encore. Ursula von der Leyen qui va rempiler à la priori à la tête de la Commission européenne. Les programmes électoraux qu'on va continuer de fouiller, de décrypter. Et puis alors, c'était très intéressant cette étude qui nous dit que d'ici quelques années, c'est en France qu'il y aura la plus forte concurrence sur les grandes lignes ferroviaires. Ça nous étonne parce qu'on peut, pour l'instant, on ne peut pas dire que la SNCF et le TGV soient vraiment perturbés par cette concurrence. Mais on parle de tout ça jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h17, c'est reparti, les experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à
Audrey
tous.
Audrey Tcherkov avec nous, bien sûr. Bon, la France mène à 0 face à la Pologne. Hein. Mbappé vient de marquer sur pénalty, je spoil, vous avez toutes les raisons de rester maintenant. Voilà.
Ça commence bien.
Ça commence très très bien. Jackie Isabello, restez avec nous. Rebonsoir Jackie.
Rebonsoir.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Jean-Marc Silvestre, bonsoir. Éditorialiste à Atlantico. Et Dominique Corona est avec nous, secrétaire bonsoir. Général adjoint du syndicat Une SA. Bonsoir.
Ça faisait Dominique. Longtemps, Dominique.
Mais oui, ça faisait longtemps.
Trop, voilà.
Ça faisait trop longtemps. Bien. Une fois c'est préliminaire, une fois que j'ai dit que la France menait 1-0, puisqu'on parle d'Europe, tenez, Ursula von der Leyen semble avoir bouclé son match à elle, puisqu'a priori, elle va rempiler à la tête de la Commission européenne pour une durée de 5 ans. Ça devrait être entériné déjà dans un premier temps lors du sommet européen qui aura lieu en fin de semaine à Bruxelles. C'est pas vraiment une surprise, c'est tout sauf une surprise évidemment.
Non, absolument, on a déjà commencé à en parler sur ce plateau, le casting était déjà un peu joué, sauf que les dés ne sont pas totalement fixés, puisque en effet, elle a été choisie par les dirigeants mais elle doit encore obtenir une majorité absolue, Jean-Marc.
Non, majorité. Au Parlement.
Donc des 361 eurodéputés.
Ouais. Oui, mais enfin, comme elle a élargi sa majorité, que le PPE est quand même renforcé après les élections européennes, elle a, malheureusement pour moi, grande chance de...
Pourquoi vous dites malheureusement pour...
Parce que je n'ai pas trouvé que ça a été une présidente de la commission spectaculaire.
Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on avait ce débat tout à l'heure. Jackie nous disait qu'elle avait plutôt bien mené, évidemment, la période Covid, la pandémie.
Elle a quand même manqué, pendant la période Covid, de beaucoup de transparence, notamment dans
sur les vaccins.
Sur les vaccins.
Elle a manqué d'humilité un peu. Elle a pris un pouvoir qui ne lui appartient pas. Elle a pris un pouvoir qui ne lui appartient pas parce que le pouvoir qu'elle détient, c'est une délégation du Conseil des chefs d'État et de.
Enfin, ceci dit, Jean-Marc, heureusement qu'on s'est mis d'accord sur la politique de vaccins.
Oui.
Ah oui.
Mais la façon dont elle l'a géré.
Ah oui, d'accord. Qu'il y ait quand même donc c'est la forme que le fond.
Et puis, je crois aussi qu'elle incarnait terriblement Bruxelles avec tous les excès de la technocratie, etc.
Bah, pas plus que les précédents. Enfin, je vois pourquoi.
Pour ma part, j'avais un candidat, mais je n'avais aucune.
Mario Draghi.
Bah,
évidemment. Oui, mais c'est le candidat que vous mettez à toutes les sauces pour le poste de Premier ministre en France, pour la Commission européenne.
Il a réussi dans toutes les sauces, c'est-à-dire oui, à la Banque centrale, et il a sauvé l'Italie.
Bon. Oui, sauf qu'il a été contraint de démissionner parce qu'il n'a pas réussi.
Oui,
à,
mais il avait fait l'œuvre. Il avait fini.
Dominique Corona.
Deux inquiétudes sur Mme von der Leyen.
Oui.
Un, donc effectivement, elle aura une majorité puisque sa base électorale s'est un petit peu élargie.
Pardon, on lui prête l'intention d'aller dragouiller les conservateurs.
Mais justement, deux inquiétudes. Elle avait dit qu'elle ferait une alliance avec les eurosceptiques, ce qui pose un problème sur les droits des travailleurs, sur la transition écologique, sur qu'est-ce qu'on veut de l'Europe et avec qui on s'allie pour effectivement avoir son poste de président de la Commission. Et deuxième grande inquiétude, c'est par rapport à la France. Aujourd'hui, où tous décident sur les commissaires européens, eh bien nous n'avons plus personne. Nous avons dit sur l'Assemblée nationale, il n'y a plus personne à Bruxelles et donc il y a un risque d'affaiblissement de la France au sein de la Commission européenne. Je pense que ça, c'est vraiment les deux risques que je vois et que nous voyons, nous, par rapport effectivement à ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec Mme von der Leyen. Donc vraiment, on est sur le qui-vive.
Alors celui qui est aussi très inquiet, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a tweeté « L'accord que le PPE a fait avec les gauchistes et les libéraux va à l'encontre de tout ce sur quoi l'UE est basée. Au lieu d'inclure, elle sème les graines de la division et les plus hauts responsables de l'UE devraient représenter tous les États membres et pas seulement les gauchistes et les libéraux. » Qu'est-ce que ça vous inspire, Jackie ?
Par les siens, parce que vous savez qu'on a reproché à Mme von der Leyen justement d'avoir octroyé à la Hongrie les fonds qu'il pouvait prendre. Si jamais il donnait des garanties en matière de respect des principes démocratiques, ce qui n'est pas complètement admis. Donc vous voyez, à peine il a eu ses fonds, que paf, il l'a gré. Moi, je trouvais que politiquement, elle s'est bien débrouillée. Il faut sortir du schéma d'analyse qu'on peut avoir en France. L'Europe, c'est, pour certains, il y a des compromissions, c'est des coalitions, c'est des négociations en permanence. Et donc, quand Mme von der Leyen fait le constat que les libéraux et Renew, eh bien, après que les gens aient voté, eh bien, cette partie-là s'amenuise, eh bien, elle tend des perches vers des partis qui se renforcent. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France, et tous les textes passent comme ça, et d'ailleurs, elle en est le pur produit, parce qu'elle n'est pas le général de Gaulle, elle ne proposera pas d'être élue au suffrage universel direct. Elle restera la candidate de la majorité des présidents du Conseil.
Jean-Marc, pour conclure,
je suis pas tout à fait d'accord avec le reproche que tu fais sur la Hongrie. Je trouve ça très malin, au contraire. C'est très machiavélique.
C'est un constat que je fais.
C'est assez malin, parce qu'en octroyant des fonds structurels à la Hongrie, elle a aussi signifié à la Hongrie qu'elle pouvait retirer les fonds structurels en cas de non-respect du règlement de copropriété. Ce qui a joué une ou deux fois dans l'affaire ukrainienne.
Donc, oui, c'est vrai.
Il faut avoir les moyens.
Oui, absolument. Mais quand même, sur le bilan économique, on ne peut pas dire qu'elle ait été exceptionnelle. Évidemment, c'est difficile d'avancer quand on est 27, beaucoup plus que quand on est tout seul.
Sur la défense, elle n'est pas parfaite non plus, puisqu'elle porte la position
sur le Green Deal. Voilà, exactement. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais quand même, face à l'Inflation Reduction Act, on nous avait promis monts et merveilles, l'Europe décroche.
Elle n'a pas le pouvoir.
Mais bien sûr.
C'est pas elle qui a le pouvoir.
Elle est la présidente de la Commission, c'est tout. Je veux dire, et effectivement, ce que disait M. Sylvestre,
c'est déjà pas mal.
Soit les gouvernements lui donnent le mandat de le faire, ce qu'elle a fait sur les vaccins, soit on lui donne pas. Mais ça veut dire, est-ce qu'on veut transformer l'Europe? Quelle Europe nous voulons? Est-ce qu'on veut plus d'Europe intégrée, fédéraliste ou pas? Est-ce qu'on veut que la Commission européenne ait plus de poids? C'est ces questions-là derrière. Est-ce qu'on veut un budget européen?
Pour avoir du poids, fallait s'appeler Jacques Delors.
Est-ce qu'on veut un marché des capitaux
et avoir des parrains derrière
pour avoir du poids? Il aurait fallu des années que la France ait plus de présence dans les instances européennes, et ça fait des années qu'on de moins en moins présente.
Quand on lit des titrailles, Ursula von der Leyen, l'hyper-présidence.
Non.
Dire, franchement, factuellement, ça n'a aucun intérêt. Elle ne peut pas être hyper-présidente.
Par contre, Guillaume, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'avec cette dissolution, avec ce qu'a fait le président Macron.
Non, mais ça fait des années.
Derrière, mais ça fait des années. Mais sur place, ça s'accentue avec une nouvelle commission qui arrive. Et moi, je veux dire, on a beaucoup de craintes. Qu'est-ce qui va sortir? Parce que la France n'est plus là.
Alors, justement, Dominique, vous nous tendez la perche. Les élections législatives, ça arrive, c'est dimanche. Donc, quoi de neuf aujourd'hui? Donc, on a une petite précision sur les retraites de la part du Rassemblement national, qui tout de même ne s'est pas totalement étendu sur les chiffres.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, le RN qui dit. Alors, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, qui l'a dit ce matin. L'abrogation et les réaménagements proposés par le parti sur cette réforme des retraites coûtera 9 milliards d'euros à terme. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition du Rassemblement National du côté de l'UNSA,
écoutez,
Dominique, de revenir alors à 62 ans, voire après, en fonction de ce que dira le fameux audit, 60 ans, est-ce que vous applaudissez? Je vous pose une question avec un brin de provocation.
Je vais d'abord commencer par vous rappeler que je vous ai dit ici sur le plateau à plusieurs reprises que les syndicats n'avaient pas gagné mais que le gouvernement avait perdu.
Oui.
Il vient de tomber là, aux élections. Quand on a 3 millions de personnes dans la rue, qu'une réforme est injuste, injustifiée et qu'il y a d'autres moyens de la faire, et on ne peut pas se battre contre son peuple. Et donc là, les élections ont tiré la fin de la partie. Que fait le Rassemblement National? Je comprends rien. Je ne comprends rien à ce que veut le Rassemblement National sur les retraites. J'ai entendu un certain M. Bardella dire « Je vais abroger la réforme des retraites. »
Voilà.
Premier point. Après, j'ai entendu « Je vais mettre, pour les carrières longues, 20 ans, à 20 ans, 40 ans de cotisation, partiront à 60 ans. Pour le reste, ça sera, effectivement, on verra comment on va faire progressif. » Et puis voilà. Maintenant, j'entends M. Tanguy qui parle d'âge pivot. Franchement, je ne comprends plus rien. Donc, c'est très simple. Est-ce qu'on, oui ou non, on revient sur la réforme des retraites? Est-ce que oui ou non, on abroge cette réforme?
Attendez, ils ont quand même été clairs sur le fait que, en effet, abrogation de la loi qui refait passer de fait l'âge pivot de 64 à 62, avec une progressivité des droits pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt
que ça veut dire
et qui ont 40 annuités.
Non, un âge pivot, le seul qui a employé le mot d'âge pivot,
c'est Édouard Philippe,
avec ce qu'on sait derrière, ce qui s'est passé sur la réforme systémique. Il n'y a pas d'âge pivot en France, donc je ne comprends pas.
Enfin, on repasserait de 64 à 62 ans.
C'est pas ce qui est dit, et donc, puisque c'est progressif, donc est-ce qu'on revient sur la réforme Touraine avec 43 ans de cotisation et on augmente la durée de cotisation et on reste à 62 ans ou pas? C'est pas ce que j'ai compris. Je vous dis, une fois de plus, je constate que le Rassemblement National n'est pas clair. Mais il n'est pas clair que sur ça. Il n'est pas clair sur rien, en fait.
C'est vrai que l'âge pivot a fait surface aujourd'hui, ces dernières heures, sans qu'on comprenne effectivement de quoi il était question.
Mais c'est marrant parce que le Monde faisait un papier cet après-midi dont le titre indiquait que le Rassemblement National est en train de récupérer tout un tas de mesures qui avaient été celles du gouvernement Macron.
Des mesures sur les retraites,
Dominique a raison, a l'impression qu'on mélange l'ensemble des différents projets, des deux grandes réformes qui ont été portées ces dernières années. Le principe de l'âge pivot, c'est pas du tout ce qui s'est passé sur la réforme systémique auparavant. Ils reviennent petit à petit sur ce sujet-là. Les sondeurs, de toute façon, vous disent une chose. Maintenant, le vote commence à se structurer. Et donc, sur les aspects économiques, un, déjà, les Français n'ont pas beaucoup de culture. Deux, ils n'ont pas beaucoup de certitudes. Et trois, eh bien, en leur disant tout et son contraire, ils vont se reporter sur d'autres sujets. Je pense que le Rassemblement National sur les retraites est en train d'adopter cette stratégie, puisqu'il dit tout et son contraire. Et surtout, les évaluations budgétaires, et là, je serais peut-être en désaccord avec vous, eh bien, c'est du grand n'importe quoi. Et juste, je vais conclure là-dessus. Quand on parle des retraites, il y a un point qu'il faut leur demander en leur disant les retraites de base, monsieur le Premier ministre, vous pourrez faire des choses, mais les retraites complémentaires qui concernent, font 60% de la retraite de tous les cadres,
pour les cadres.
Eh bien, c'est pas le gouvernement qui décide.
C'est les partenaires sociaux.
Et eux, quand le régime était en péril en 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont dit,
nous, on met en place un bonus-malus parce qu'on est garant de l'avenir du régime
pour les générations futures.
Et ça, le gouvernement ne pourra rien y faire. C'est un point important.
Alors, Jean-Marc, d'abord, sur les retraites.
Non, monsieur, le dossier retraite, c'est le dossier le plus important des programmes économiques que font les gouvernements et que proposent les programmes de gouvernement. Parce qu'à partir du moment où on adopte et on se cramponne au régime de la répartition, répartition, eh bien, il faut bien équilibrer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc, si on travaille un peu plus longtemps, si l'espérance de vie s'allonge, eh bien, il faut peut-être allonger la durée du travail. Tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur ce truc qui est quand même basique,
la retraite par capitalisation,
on n'y arrivera pas. Bon, non, la retraite par répartition. Oui. Si on veut sauver la retraite par répartition, c'est un système assurantiel. Il faut que les assurés sociaux puissent payer ceux qui.
Oui, vont mais ce que vous nous dites très souvent,
donc il faut autre chose.
C'est qu'il faudrait passer.
Il faudrait peut-être éventuellement à plus de responsabilité personnelle, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs sous le manteau à titre privé, ce que les gens qui ont les moyens font. J'ajoute aussi ça pour le Rassemblement national, c'est que le sénateur Malhuret a une expression, il dit c'est un artichaut le programme, c'est-à-dire qu'il effeuille au fur et à mesure que le jour passe, il enlève les feuilles, il va se retrouver à poil à la fin, parce que il est à la porte du pouvoir, il sait très bien que le segment de clientèle qui lui manque, ce sont les chefs d'entreprise et notamment les PME et les ETI.
Alors
donc
justement,
il ne fera rien, mais
justement,
pour pouvoir gêner ces
voilà, exactement, parce que là,
donc il enlève, mais il n'y a plus rien sur la fiscalité.
Quand il s'est adressé aux chefs d'entreprise,
la seule fiscalité, c'est suppression des impôts de production.
La semaine dernière,
au sein du
MEDEF, exactement. Non, mais là, on sent, Dominique, que le Rassemblement national, aujourd'hui, on peut le dire, a une politique de l'offre et qui va même plus loin que le gouvernement actuel, puisque lui propose de supprimer complètement la CVAE et la C3S.
Mystification, mensonge. On se fait passer pour un parti qui est projet travailleur et on va faire l'inverse. Par exemple, sur les retraites, vous avez raison, M. Sylvestre, il faut effectivement des actifs qui utilisent pour les retraités. C'est ça, effectivement, notre système de répartition. Mais si on empêche, par exemple, les étrangers de venir travailler en France alors qu'on a besoin de main-d'œuvre, comment?
Alors, ils sont revenus dessus aussi, puisqu'ils parlent d'une immigration de croissance.
Alors, attendez, ils parlent d'immigration de croissance. J'ai entendu aussi plus de binationaux dans la fonction publique que sur les postes stratégiques.
Bon, attendez,
j'ai entendu. Ça sera anticonstitutionnel.
Attendez, on verra. Je dis ce qu'ils proposent.
Ça ne passera pas. Vous savez bien, Dominique, ça ne passera pas.
Il propose la fin du droit du sol. Il propose double frontière. Mais comment on fait? Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un grand groupe industriel de grande distribution qui a commencé à dire attention. Nous, on a besoin de main-d'œuvre. Puis comment on fait dans les hôpitaux? Si on n'a plus les médecins, comment on fait si on n'a plus les aides-soignants? Étrangers, des gens qu'on ne peut pas se soigner, comment on fait?
Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Effectivement, très très vite, on a vu la main-d'œuvre d'Europe de l'Est.
On a besoin, et c'est pas moi qui le dis, Patrick Martin, du président du MEDEF, le dit lui-même. Donc, c'est tromperie, le Rassemblement National. C'est tromper les Français.
Et le Front Populaire.
C'est tromper les travailleurs.
Oui, parce qu'on va passer le Front Populaire au crible aussi.
Alors, attendez, le Front Populaire a fait des tromperies avec un coût trois fois supérieur.
Attendez, c'est quoi la tromperie du Front Populaire?
Alors,
justement,
on y vient dans un instant.
Relance par la demande.
Je vous en ai. Attendez, mais dans un instant.
Messieurs, stop. On a un rappel des titres.
Voilà, on fait un rappel des titres. Et puis vous allez pouvoir vous écharper sur le programme du Front Populaire dans deux petites minutes sur BFM.
Je vous connais. Un peu quand même.
Allez, 19h31.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h34, les experts du soir sont très animés ce soir. Jean-Marc Sylvestre, Dominique Corona, Jacques Isabello et bien sûr avec vous, Guillaume Paul. Donc on a parlé du programme de la droite et de l'extrême droite. On va bien sûr parler du programme tout de suite du nouveau Front Populaire, même si quand on regarde certains porte-parole, ça porte à confusion, ça ressemble plutôt à l'ancien Front Populaire. Mais bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ce programme vous inspire, Jean-Marc?
Lequel?
Lâchez
tout, allez-y.
Il ne m'inspire pas grand-chose, puisqu'il ne sera pas appliqué. Donc on peut dire tout et n'importe quoi. Il ne sera pas appliqué. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il prévoit des dépenses qui sont excessivement élevées, qu'on ne peut pas financer. Le lendemain de l'arrivée du Front Populaire, on a le FMI qui frappe à la porte. Hein.
Alors d'abord, c'était 250 milliards d'euros. Après, c'était 100. Là, ils se sont mis d'accord à 150.
Oui,
c'est l'estimation.
Mais c'est vrai que
c'est pas une conversation
de
marché.
Ce que je reprends de Jean-Marc, c'est moi, ce qui me choque, et d'ailleurs, j'aimerais bien entendre Dominique, parce que Dominique, ses élus sont dans les entreprises et sont attachés à la bonne santé des entreprises. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les partenaires sociaux, c'est indispensable. Et là, on a des responsables qui disent « Non, mais attendez, on déconne, les gars. Hein » Vous rappelez le Front Populaire de Blum, la gauche, on se met toujours d'accord pour être au pouvoir, mais on n'est jamais, on n'appliquera jamais. Enfin, c'est choquant par rapport aux gens. Les gens, ils trouvent ça sérieux, l'acte de voter. On n'arrête pas de leur dire, ne vous abstenez pas. Ils nous disent qu'ils vont se déplacer à 65%, on va battre des records. Et on a des gens qui disent, comme, vous savez, comme le disait François Mitterrand, il avait cette, il disait, l'économie, de toute façon, à la fin, ça se termine toujours par augmenter le prix du paquet de cigarettes. C'est pas sérieux. On a vu ce que ça nous a coûté. Et donc, par exemple, pour les entreprises, augmenter le SMIC de 15%, on sait que c'est une barrière à l'entrée pour tous les emplois qu'on veut désmicardiser. Donc, quand on dit,
hélas, oui,
on
augmente de 80% des demandeurs d'emploi
et on désmicardise la France,
au mieux le bac. Oui.
Voilà, c'est clair obscur. C'est vraiment des choses.
Non, mais j'irai pas
sur le reste. Moi, j'aimerais discuter avec Dominique là-dessus sur les aspects qui concernent les entreprises. Ça va être effrayant, déstabilisant. On ne réindustrialisera et on va empêcher les jeunes et les moins qualifiés de rentrer sur le marché du travail. Et on va se retrouver dans une époque.
Dominique, sur ce que Jackie vient de dire, quand on renforce le coût du travail, il y a évidemment un risque d'augmenter le chômage. Vous êtes d'accord avec ça?
Quand on durcit les règles du chômage, il y a un risque de faire baisser le chômage. C'est ce qu'on m'a dit.
Oui,
donc c'est la même chose.
Donc un SMIC à 1600 euros net.
J'étais très jeune en 81. Ouais. Cinquième semaine de congé payé. Les chars russes sur la place de la Concorde. La retraite aux 60 ans, les 39 heures. C'est les grandes avancées sociales. Il n'y a pas eu de grandes avancées sociales depuis. Depuis, c'est des sangs et des larmes. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais quand même. Cette année, on n'a pas augmenté les impôts, sauf des malades. Participation forfaitaire doublée, franchise médicale doublée. On n'a pas, effectivement, on a demandé aux travailleurs de mettre 100 euros pour leur formation de ticket modérateur. 100 euros pour un ouvrier qui est au SMIC, c'est énorme, il ne peut pas se former. Qui a fait ça? Le gouvernement actuel. On a fait une réforme des retraites extrêmement dure, injustifiée, qui n'a fait demander des efforts qu'aux seuls travailleurs de ce pays. Rien n'a été demandé aux entreprises, pas un centime. Et vous avez en face, maintenant la dernière, c'est sur les chômeurs. On explique que les chômeurs, ils sont effectivement, c'est eux la faute de tout. Et là encore, c'est pas équilibré. Si on veut vraiment qu'on soit sur l'intérêt général, il faut qu'au bout d'un moment, tout le monde comprenne qu'il faut faire des efforts. Et que les efforts ne peuvent pas être que d'un sens, dans un seul sens. Je vais toujours dire la même chose. Vous avez 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Monsieur Sylvestre, vous qui êtes quelqu'un de foncièrement...
On vous entend sur le programme du Front Populaire, Dominique.
Non mais, par exemple, 75 milliards d'euros de cotisations sociales aujourd'hui, qu'on donne aux entreprises, c'est une politique publique. On doit regarder les effets de cette politique publique.
Non mais attendez, on n'est pas là pour faire le bilan des Emmanuel Macron.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement redonner de l'espoir. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a besoin de pouvoir d'achat.
Je voudrais en deux minutes. Ce qui me désole, ce qui me frappe dans les débats qui tournent autour des programmes, que ça vienne des syndicats ou des partis politiques, c'est qu'ils le tournent en permanence à 90% autour des dépenses. C'est-à-dire qu'on redistribue. Oui. Vous êtes des jukebox. Oui. Vous redistribuez de l'argent sans savoir qu'il y a quelqu'un qui mette des pièces dans la machine. Un débat national sur les législatives, ça devrait être un débat sur les créations de richesses, comment on fait une véritable politique d'offre, comment on crée de la richesse avant de pouvoir la redistribuer, comment on fait de la compétitivité, comment on augmente la productivité, comment on...
Pourquoi toutes les politiques libérales que nous avons eues n'ont pas réussi?
Il y a le protectionnisme.
Pourquoi toutes les politiques libérales, effectivement, n'ont pas réussi? C'est ça la vraie question.
Parce que vous avez une culture, depuis des années, il faut aller sur la politique, etc.
Non, mais la question, effectivement,
vous vivez de la
candidature. Sur le programme du Front Populaire, sur les grands équilibres macroéconomiques.
Est-ce qu'il faut, par exemple, les chefs d'entreprise ne sont pas intéressés aux résultats.
Vous êtes intéressé aux résultats distributifs. Vous n'êtes pas intéressé aux résultats de production.
Je vous donne un exemple sur les retraites. Sur les retraites, nous avons eu de cesse de faire des propositions sur les recettes.
Faites des propositions sur la qualité. Parlons des impôts.
Je n'entends dire que la France est la championne du monde des impôts. C'est pas vrai sur les impôts sur le revenu.
Prélèvement obligatoire.
Oui, mais c'est pas pareil. Oui. Le prélèvement obligatoire, c'est des ressources pour la sécurité sociale dont nous avons tous besoin. Donc, c'est pas la même chose. Et donc, ça veut dire effectivement que les cotisations sociales financent notre protection sociale, financent notre bien commun. C'est un peu différent. Et quand j'entends dire sans arrêt les impôts, on ment aux Français. Il faut dire la vérité. Les impôts, c'est pas vrai.
Alors justement, est-ce que le nouveau Front populaire propose un programme qui vous semble convenir à la France aujourd'hui?
Je pense que c'est difficile de le dire comme ça. Nous, ce qu'on veut effectivement, c'est en tant que syndicaliste que les travailleurs soient respectés, qu'il y ait effectivement du pouvoir d'achat et qu'il y ait des équilibres qui soient donnés effectivement entre les efforts de tous et de toutes.
Donc, est-ce que c'est un programme équilibré?
Aujourd'hui, le programme que nous voyons effectivement, c'est que oui, il faut donner du pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut de réformer la fiscalité en France? Oui. Oui, il faut réformer la fiscalité en France. Est-ce qu'il y a effectivement une tranche supplémentaire au lieu de 4 000 euros? Oui.
Donc on remet l'ISF, on augmente le SMIC à 1 500 euros.
Bien sûr, parce que sur l'ISF, il y a aussi une autre chose, Audrey. Sur l'ISF, c'est aussi le signe que vous envoyez. Oui, c'est 5 milliards, c'était 5 milliards d'euros. Oui. Voilà, c'est pas non plus le nirvana.
Non, attendez, là on veut recréer un ISF à 15 milliards d'euros, c'est-à-dire le double, grosso modo, oui, de l'actuel IFI.
Alors on n'a pas très bien compris, Guillaume, comment est-ce qu'on a
Le Front National veut aussi un ISF, en enlevant la résidence principale. C'est-à-dire que grosso modo, excusez-moi, quand vous avez un patrimoine extrêmement exceptionnel où vous habitez à l'intérieur, vous ne serez pas taxé. Hein. Vous voyez là encore qui on aide. On aide les plus riches, hein, avec ça. Non, c'est ça, la difficulté.
Bon, moi, je regrette. Je voulais qu'on parle de l'augmentation de 15% du SMIC. Hein. Il y a 2 300 000 TPE en France.
1400 à 1600 euros net. Hein.
Donc, le boulanger, demain, chez qui on va acheter sa baguette, et dont on sait qu'il doit créer 30 000 euros de valeur ajoutée pour créer son premier emploi, cette augmentation-là, quels sont les effets? Les effets sont dévastateurs.
Compétitivité pour
et toutes ces entreprises qui vont grossir petit à petit et qui vont faire des calculs avec leurs conseils en disant qu'il faut placer le centre de production de l'autre côté de la frontière. Vous savez, Dominique, je vais vous donner une étude. Moi qui, dans toutes les études, m'avais estomaqué un jour. Vous connaissez Benaouda Abdedaïm peut-être, qui est un journaliste de cette antenne. Il a sorti une enquête qui venait d'un centre étranger du nord de l'Europe, et il a dit au nord de l'Europe, plus on accorde finalement du crédit, plus on accorde de l'attention, plus on accorde de l'amour aux grands dirigeants d'entreprise, plus leur politique devient sociale. Et donc en gros, il a dit, si vous dites aux gens qui développent leur business dans ce pays on vous aime, eh bien ils deviennent sociaux. Nous, on passe notre temps à leur dire qu'on les déteste, de se casser ailleurs.
Ils ont manqué d'amour depuis des années. S'il y a bien des gens qui ont manqué d'amour, c'est bien les travailleurs. Je ne crois pas, moi, que les employeurs ils manquaient d'amour, hein. Ou alors on vit pas la même planète.
Oui, mais parce que vous prenez toujours l'exemple de 3-4 milliards.
Pas du tout.
Vous avez l'impression que les 2 millions 300... Moi, je suis patron de TPE, je l'ai été toute ma vie. Les 2 millions 300... 300 000 dirigeants de TPE, on travaille avec nos salariés, on développe avec nos salariés, on n'est pas les gens déconnectés, et une augmentation de 15% du SMIC. Mais
écoutez-moi, je crois que vous m'avez pas écouté. Quand je parle des exonérations de cotisations sociales, par exemple, je dis que c'est une politique publique. J'ai jamais dit qu'il fallait les supprimer pour tous et pour toutes. Jamais. Dis simplement qu'il fallait regarder.
Non, mais Dominique, on parle du programme du Front Nouveau, Front Populaire. Je parle pas de vous.
Je parle de ça. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faut aimer les employeurs. Oui, il faut aimer les employeurs. Bien sûr, sans entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de travail. Bien sûr que oui. Mais encore faut-il effectivement que les politiques publiques qui soient mises en place derrière fonctionnent. Est-ce qu'elles fonctionnent?
Non, mais c'est un autre débat. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les jeunes qui, par définition, ont moins d'expertise, moins d'expérience, vont forcément rencontrer encore plus de difficultés pour trouver un premier emploi?
Mais écoutez, j'en suis pas certain. Parce que d'un côté, vous augmentez aussi le pouvoir d'achat des gens. Vous avez effectivement plus de consommation. Alors après.
Non, pas forcément de consommation. Vous pouvez épargner cet argent, ce surplus.
Vous savez, aujourd'hui, vu l'état effectivement des finances des travailleurs au SMIC, je ne pense pas qu'ils puissent
épargner. L'idée fondamentale, c'est ce chiffre qu'on
mais
souvent,
peut-être que vous avez demandé là-dessus, mais je ne crois pas que
vous
n'avez
pas la hausse du chômage.
Je pense que ça va augmenter le travail au noir.
Oui, sûrement.
Ces effets-là. Et ça va augmenter, renforcer le flux de migrateurs, de migrants illégaux.
Et donc ça va déstabiliser l'équilibre de certains régimes
de retraite.
Parce que
les chefs d'entreprise, ils sont pragmatiques.
Illégaux, mais pourquoi? Parce que ça veut dire que les employeurs embaucheraient des gens non déclarés.
Bien sûr. On le sait. Attendez, moi je suis patron de TPE. Enfin... Il y a des gens qui abusent. Il faut le dire, on va pas dire l'inverse. Mais on sait très bien que plus on augmente le coût du travail, plus on fait ça. Vous parliez des retraites tout à l'heure. On connaît le problème. Aujourd'hui, c'est le besoin de financement des régimes qui bénéficient pas de subventions d'équilibre. Les régimes de retraite du privé, vous le savez, vous êtes au corps. Bon. ceux-là, ils sont à peu près à l'équilibre. Vous savez, ceux qui ne sont pas à l'équilibre.
Oui, pourquoi et ils ne sont pas à l'équilibre?
Comme on sait que la partie cotisation sur les 380 milliards des régimes de retraite, la partie subvention qui représente à peu près 250 milliards, elle se réduit en plus. Donc si ces entreprises-là, on leur met la pression en augmentant le coût du travail, eh bien les équilibres sociaux
parce
derrière.
Parce que vous allez augmenter les recettes.
Que moi je défends.
Les cotisations sociales.
Que je défends comme vous. En tout cas, c'est pas le vous. Ce programme du nouveau Fonds populaire.
Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les travailleurs ont montré un signe et qu'il y a une désespérance dans le pays et qu'il va falloir y répondre d'une façon ou d'une autre. Et que
si il ne faut pas rester au SMIC. Et si
personne n'est capable de faire de l'intérêt général et de se mettre autour d'une table, ce que nous on prône à l'UNSA, on n'y arrivera pas. Quels accords ont été créés? Quels annies ont été créés depuis des années? Plus rien. Il n'y a plus possibilité dans ce pays
partage
de discuter.
Oui, mais c'est vraiment. Non, mais alors justement.
Il faudrait aujourd'hui, franchement, qu'il y ait aussi un MEDEF.
Dominique, oui, non, mais d'accord, on vous entend. Mais donc.
Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas.
Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire et sur cette question presque philosophique, que vous avez commencé à avoir avec Jean-Marc sur faut-il un État-providence ou faut-il un État-gendarme. Je vous rappelle cet exemple quand même assez dingue de la Belgique qui, en 2010, a connu une période de 541 jours. Sans gouvernement en exercice, que s'est-il passé? L'économie ne s'est jamais mieux portée. Une croissance de 2%, c'est-à-dire une des meilleures performances de la zone euro. Est-ce que ça veut dire que moins l'État est interventionniste, mieux les choses se passent?
Excusez-moi, mais il me semble quand même qu'en Belgique, il y a de l'indexation des salaires sur le SMIC, non? Sur l'inflation?
Oui.
Me semble-t-il.
Comparaison n'est pas raison, disait Edgar.
Vous voyez comme quoi, vous voyez des fois.
Mais ça permet au moins d'être optimiste pour.
Je ferai.
Quelques petites minutes.
De notre maître philosophique à tous.
Oui, absolument.
Quelques petites minutes pour parler, alors pour sortir un peu de la politique, cette étude qu'on a vu passer aujourd'hui qui est intéressante. Vous savez qu'on parle beaucoup de concurrence sur les grandes lignes ferroviaires, sur le TGV en France. La concurrence n'est pas très forte aujourd'hui face à la SNCF. Et on a cette étude aujourd'hui qui nous dit que d'ici quelques années, en fait, la France devrait être sur le marché des trains à grande vitesse, le marché le plus concurrentiel d'Europe. Alors que pour l'instant, honnêtement, c'est pas vraiment ça. Je regarde Jean-Marc parce que je sais que lui emprunte la concurrence de temps en temps.
Le plus souvent possible d'ailleurs.
Carrément.
Non, mais c'est vrai, c'est que si vous introduisez de la concurrence sur le réseau SNCF, vous allez régler en une partie des problèmes de la SNCF.
Non, mais
sans aller jusqu'à dire un gros mot qui s'appellerait la privatisation. Parce que dans ce pays, la privatisation, c'est un gros mot.
Pour Jacqueline, non, a priori, pour
c'est vrai
un peu
faut,
plus. Oui.
Il faut. Et la concurrence, c'est un facteur de progrès, c'est un facteur de création de richesse.
L'étude,
le consommateur en profite, la technologie en profite, et les salariés en profitent.
Ouigo en Espagne.
Oui.
Perte, 36 millions en 2022, SNCF. Hein. Pour aller concurrencer. Justement, le TGV espagnol.
Oui, qui, lui, gagne de l'argent.
36 donc, millions d'euros de déficit.
Et qui va se lancer en Italie, vous avez vu ça.
Il y a un train italien en France. 34,5 millions d'euros de pertes.
Mais c'est pas lié au système.
Alors qu'avant, vous aviez un système, monsieur Sylvestre, qui était quand même bien, de coopération européenne, qui vous permettait effectivement d'aller d'un point à un autre. Là, ce sont les États, finalement, qui se font concurrence. Donc nous-mêmes, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent et qu'à la fin, on y gagne. Franchement, j'en suis pas certain.
Jacques, pour trancher sur le sujet.
Je suis pas un fan de l'énorme concurrence. Rappelons-nous que l'histoire des compagnies ferroviaires en France, au début du siècle, elles étaient parsemées, elles étaient nombreuses, et pour des raisons d'investissement, de sécurité, de tout un tas de choses, même de faire venir la main-d'œuvre qualifiée, on a décidé de créer un service public. Moi, ce que je demande à la SNCF, c'est qu'elle arrête de s'enfermer dans des schémas qui font que, moi, à Noël, je vais vous faire une confidence, vous voyez, je l'ai envoyé à une copine ministre. Moi, j'ai perdu ma maman à la fin de l'année, et quand ils font la grève et que mon père peut pas venir chez moi pour cette période importante, ça me rend dingue. Alors que nous, on a une partie de la famille. Et ça me rend dingue et c'est pas possible. Et il y a plein de gens que ça rend dingue. Et donc, qu'ils arrêtent de faire ça, parce que ils font bien leur travail, c'est sécure, ça va vite, il y a de beaux ingénieurs, on doit être fiers de ce truc-là, sauf qu'ils se font dépasser par une espèce de haine qu'ils peuvent susciter pour des raisons qui ne sont pas logiques. Donc, pour revenir sur l'aspect économique, moi, je suis pas pour la privatisation de tous ces grands services-là, et j'aimerais qu'ils reviennent à plus de modération et de raison.
Mais alors, en revanche, vous êtes pour les périodes de carence, à l'image de ce qui se passe en Italie, où on impose des périodes pendant lesquelles on ne peut pas faire grève.
Il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Les gens qui travaillent à l'autre bout de la France et qui ont décidé de délocaliser leur résidence principale, ils reviennent tous, ils deviennent dingues. Ouais. Ils n'arrivent pas à trouver un train qui vient à l'heure parce que les petites lignes, ça ne fonctionne pas. Donc, si un peu de concurrence, ça permet de s'appuyer sur la SNCF pour développer les petites lignes, moi, je dis oui.
Le fait est qu'on y va, mais la SNCF, il va reculant quand même.
C'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, on a une chance, je pense que vous avez raison, c'est d'avoir un service public, la SNCF, intégré. Si on désintègre effectivement ce que nous avons, ça veut dire que c'est le fret derrière, c'est la petite ligne, c'est tout ça qu'on aurait pu la financer. Si on engage la concurrence, moi je préfère effectivement qu'on puisse avoir un service public fort, effectivement avec des petites lignes qui fonctionnent, avec effectivement des TGV qui soient à l'heure, etc., plutôt que d'aller se battre sur la concurrence avec d'autres États. Franchement, je pense qu'on a autre chose à faire et je pense que la chandelle, franchement, c'est pas très bon.
Jean-Marc, pour conclure.
Ça va pas être une conclusion, mais je pense qu'on a effectivement un réseau ferré extrêmement dense et d'une grande qualité. Je trouve ça dommage qu'il ne puisse pas être utilisé par d'autres acteurs.
Qui coûtent en entretien, en rénovation. Voilà.
Parce que, en fait, ça permet d'amortir ce réseau ferré sur un plus grand nombre d'activités et sur un chiffre d'affaires plus important.
Et je vous rappelle qu'il y a un poste à prendre, puisque Jean-Pierre Farandou termine son mandat.
Voilà. Vous savez que.
Dominique,
on fait des cadeaux quand même pour les péages, pour les trains étrangers en France. Hein. Oui. 30% de moins que la SNCF, me semble-t-il. Alors que, par exemple, le péage en France pour faire pour les rails, c'est 16 euros par train et par kilomètre, c'est 5 euros en Italie.
Et c'est trop cher pour les gens qui n'ont pas les moyens. La SNCF, ça devrait être le moyen de transport privilégié de gens qui n'ont pas de patrimoine. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Les gens qui prennent un Inouï, mais on va dire, dis donc, vous savez, c'est cette fameuse blague en disant, cette fameuse pub qui dit comment ça, mais ton copain Audric, il s'est acheté une poire pour dire demain il y aura plus de fruits, ça sera un produit de luxe. Aujourd'hui, prendre un TGV Inuit, c'est un produit.
Non, mais ça devrait être aussi le moyen de transport favori pour les gens qui veulent voyager décarboné. Alors que par contre,
la concurrence, Jean-Marc Sylvestre,
on a certaines lignes d'avion qui sont moins chères que la ligne de train.
La concurrence suisse et italienne n'est pas forcément moins chère, un petit peu quand même, que la concurrence. TGV, mais la qualité de service, elle est autrement meilleure.
Je ne suis pas sûr que sur les trains allemands, ce soit le même cas. Hein,
les
trains allemands, je ne suis pas sûr.
Il n'y en a pas encore.
Non, non, mais vous savez, vous pouvez partir effectivement de Paris à Strasbourg pour un train allemand. Et dernier point quand même aussi sur les bénéfices des entreprises étrangères qui vont prendre notre réseau ferré, ils ne vont pas payer en France les impôts, etc. pour les infrastructures. Hein. Ça pose aussi une autre question.
Bon. Voilà, en tout cas pour ce rapport qui est sorti aujourd'hui. Un peu moins de 3 minutes, l'extra time comme tous les soirs. Vos avis du soir, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes chrono. Jean-Marc, vous voulez commencer? Allez.
Oh non, mais là, vous allez tous vous...
Non,
je voulais vous... Comme coup de cœur, Bernard Arnault. Je trouve qu'il est gonflé, je trouve qu'il a raison. Je trouve que c'est un des grands patrons. Il met le pied, un petit bout de pied, chez Richemont, qui est le plus grand du monde. C'est son rêve depuis tout le temps, je pense. Il n'a pas terminé. Je trouve que faut qu'on arrête de lui taper dessus, quoi.
Bon, on verra ce qu'il fait chez. À titre personnel, il est entré au capital de Richemont. Attention. Hein.
Oui. Voilà. Mais n'empêche que il est rentré au capital. N'empêche que la LVMH a progressé en bourse.
Absolument.
De presque 2%.
Absolument. Ce soir. Absolument.
Coup de sifflet et
coup de sifflet un partout entre la France et la Pologne, c'est fini. Jackie, 30 secondes, c'est à vous.
Non, je trouve que cette campagne ne met pas en valeur les économistes parce qu'on n'arrive pas à trouver une vérité économique.
Ils se déchirent entre eux.
Éclairerait un peu plus les Français. En France, on n'arrive pas à avoir un institut de référence comme le Central Planning Bureau peut le faire aux Pays-Bas ou l'Institute for Fiscal Studies au Royaume-Uni, pardon pour mon accent français. Ça éclairerait les gens et ça leur permettrait de faire des choix solides en ce qui concerne l'économie, et on n'a pas ça en France et je le regrette.
Et bien voilà une proposition que les partis devrait récupérer.
Parce qu'on n'a pas le respect des faits et des chiffres. Bon.
Dominique, pour clore le bal.
Et moi, je vais rendre un hommage à un professeur à qui on a dit au revoir ce matin à Avignon. C'est un professeur d'histoire qui m'a appris a donné des, à prendre des interviews en 81, c'est il y a quelques années, qui m'a appris effectivement à lire entre les lignes un article de presse qui a fait de moi un citoyen éclairé. Donc on y a dit un dernier bord aujourd'hui, et je voulais lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que je pense que l'école mérite mieux que de dire du vouvoiement ou de dire effectivement il faut de la blouse ou de l'uniforme. Je pense que l'école, elle mérite qu'on chérisse nos professeurs. Parce que si on veut des citoyens éclairés, il faut que l'école soit forte, l'école laïque de la République. Et je pense que les partis devraient aller beaucoup plus loin dans leurs propositions.
Voilà pour cet hommage que vous rendez ce soir à votre professeur, ancien professeur. Merci beaucoup Dominique. Voilà pour vos avis. Merci messieurs, 19h55, c'est fini pour ce soir. Merci à tous les trois, Jackie, Isabello, Jean-Marc Sylvestre et Dominique Corona. À très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Oui, c'est terminé, mais la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, on se retrouve demain soir.
On sera là demain, jeudi. Non, avec mardi aujourd'hui.
Oui, mercredi.
Ah ben demain, donc c'est mercredi. Voilà, j'anticipe. C'est comme ça.
Le jour des enfants. Quand même.
Absolument. Tech & Co dans un instant. Bonne soirée. Et donc, à demain, mercredi.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.